droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International Évreux pour la seconde et dernière émission du mois de septembre, puisque nous avons fait notre entrée sur l'antenne il y a maintenant 2 semaines. Voilà, le podcast est en ligne. On l'a mis en ligne rapidement après l'émission. Donc, n'hésitez pas à l'écouter ou à le réécouter si vous le souhaitez. Ce soir, pour animer l'émission, à propos des droits humains, parce qu'on rappelle aux auditeurs qui ne nous ont encore jamais entendus, il doit en rester quelques-uns à Évreux, ou qui ne nous connaissent pas, que Amnesty International est une ONG mondiale de défense et de promotion des droits humains. Voilà. Donc, pour animer l'émission avec moi ce soir, il y a Claire Lise.
Bonsoir.
Et il y a Juliane.
Bonsoir tout le monde.
Voilà. Deux personnes que vous avez, pour ceux qui nous connaissent, que vous avez déjà l'habitude d'entendre, vous avez déjà entendu à plusieurs occasions. Donc pour ce soir, au menu de l'émission, pas mal de sujets comme d'habitude. On va vous parler de l'Afghanistan, on va vous parler de l'État français qu'Amnesty met en justice à cause de ses ventes d'armes. On va vous parler aussi de droits des femmes, d'écoféminisme et de droits de la nature. C'est Juliane qui a développé un gros sujet par rapport à ça tout à l'heure. Et puis, on va vous parler aussi de l'abolition de la peine de mort en France dont on fête le 40e anniversaire. On va vous faire aussi un appel à l'action et puis nos infos locales et puis peut-être d'autres points si on a le temps, mais c'est pas sûr. Voilà. Donc, alors pour commencer, je voulais quand même vous donner une bonne nouvelle. Parce que c'est toujours intéressant, les bonnes nouvelles, et c'est même ce qui nous motive quand on agit pour les droits humains, et ce qui nous motive à Amnesty, c'est que, en fait, ce week-end, le dimanche dernier, si je ne me trompe pas, les Suisses, sous forme de référendum, ont dit oui au mariage pour toutes et tous. Donc le communiqué suivant a été publié le lendemain par Amnesty International France. La Suisse deviendra le 29e pays à reconnaître le mariage entre personnes du même sexe, une victoire pour l'égalité. Le dimanche 26 septembre, les Suisses se sont prononcés à une large majorité en faveur du mariage entre personnes du même sexe. Ce vote signifie que le mariage et les droits qui l'accompagnent, notamment celui d'adopter des enfants et d'accéder à la médecine reproductive, seront enfin ouverts à tous les couples en Suisse. Il s'agit d'une étape importante vers l'égalité qui était attendue depuis longtemps. De plus, cette votation, c'est le nom en Suisse, qui désigne les référendums populaires, enfin les référendums proposés à la population. Donc cette votation historique envoie un message clair. Les personnes LGBT ont les mêmes droits que quiconque et bénéficient, au regard de la loi, d'une protection complète et égale à celle des autres personnes. Le mariage pour toutes et tous va renforcer l'acceptation des personnes LGBT dans la société et permettre de combattre les préjugés et les agressions. Pour preuve, dans le pays qui ont franchi le pas, le taux du suicide a diminué. Voilà le petit communiqué d'Amnesty. Donc, on voulait commencer l'émission par cette bonne nouvelle. Et puis, on va enchaîner, sans transition, comme on dit dans les médias, on va enchaîner sans transition sur une situation qui, elle, est beaucoup plus dramatique. C'est celle de l'Afghanistan. Et c'est Claire Lise qui vous en parle.
Oui. Bonjour à tous. Donc, il y a 15 jours déjà, on avait commencé à vous en parler un petit peu. Et c'est Sabine qui vous avait lu un texte d'une femme afghane qui était, je crois, avocate et qui écrivait un petit peu ses craintes par rapport à l'arrivée des talibans, par rapport aux femmes dans le pays et aux libertés des femmes en Afghanistan. On avait peu de documents, enfin, on savait que ça risquait que la situation risquait de se dégrader rapidement malgré ce que les talibans, quand ils ont pris le pouvoir, ont commencé à dire en disant qu'ils allaient respecter les droits de chacun, que bien sûr, il y aurait une place aussi pour les femmes, etc. et tout. depuis, on a quand même beaucoup d'informations qui nous disent que la situation se dégrade de jour en jour et que effectivement ils ont bien pris le pouvoir, mais ils mettent en place leurs opinions, leurs convictions, et ça va pas vraiment en faveur des droits humains. Donc au pouvoir depuis moins de 6 semaines, les talibans démantèlent méthodiquement les avancées en termes de droits humains obtenues ces 20 dernières années dans le pays. Un climat de peur règne alors dans tout l'Afghanistan. Alors que les talibans ont martelé qu'ils respecteraient les droits des Afghanes et des Afghans, c'est bien au contraire une répression à grande échelle qu'on observe depuis la prise de Kaboul. Notre rapport d'Afghanistan... Oh, voilà, ça c'est de l'anglais. Au secours, Didier.
Vas-y, c'est pas grave.
Afghanistan's fall into the hands of the Taliban. Bon, bref.
On a super bien compris.
L'Afghanistan est tombé aux mains des talibans.
Voilà. Conduit avec la Fédération internationale pour les droits de l'homme, la FIDH, et l'Organisation mondiale contre la torture, l'OMCT, dévoile une longue liste d'atteintes aux droits humains. Donc, et qui, bien sûr, ça montre le vrai visage des talibans. L'ensemble du peuple afghan subit des restrictions et des atteintes majeures à leurs droits. La liberté d'expression est attaquée de toutes parts, notamment via la répression des manifestations et des médias. Les femmes, déjà les grandes victimes du régime taliban en place de 1996 à 2001, sont de nouveau soumises à de multiples restrictions de leur liberté et à des représailles en cas de transgression. Le droit international a également été bafoué puisque des civils ainsi que des soldats qui s'étaient rendus ont été tués dans le Panjshir. Dans cette région, dernier bastion anti-taliban à être tombé, l'aide humanitaire fait face à un blocus. Donc 5 semaines seulement après avoir pris le contrôle de l'Afghanistan, les talibans ont clairement démontré qu'ils ne comptent ni protéger, ni respecter les droits fondamentaux. Donc ça, c'est la directrice adjointe pour l'Asie du Sud à Amnesty International qui faisait cette déclaration. En raison d'une connexion mobile défaillante et dans de nombreuses régions des coupures volontaires d'Internet, les conclusions de notre rapport ne sont sans doute qu'un petit aperçu de la réalité sur la place. J'ai peut-être mélangé mes pages, elles sont tombées.
Reprends, c'est pas grave.
Donc, les défenseurs des droits humains sont pris pour cible. Donc, les talibans pourchassent toutes les personnes engagées pour les droits humains. Pour survivre, celles-ci n'ont d'autre choix que d'entrer dans la clandestinité. Elles vivent sous la menace constante d'être arrêtées, torturées, voire tuées. Nous nous sommes entretenus avec Mahmoud, un défenseur afghan qui est parvenu à quitter le pays. Le jour où les talibans sont entrés dans Kaboul, il a reçu un appel lui demandant de remettre les véhicules, l'équipement et l'argent de son ONG. Son interlocuteur connaissait son nom et lui a ordonné de coopérer. Au cours des jours suivants, Mahmoud a reçu d'autres appels et messages WhatsApp lui demandant son adresse personnelle. D'autres de ses collègues ont été frappés et fouettés par des talibans. Donc les défenseurs des droits humains sont attaqués sur tous les fronts car ils sont considérés comme les ennemis des talibans. Alors, ceux qui ont réussi à quitter le pays sont désormais bloqués dans des camps militaires ou dans les pays voisins, ne connaissant pas leur destination finale, ni comment ils pourront reconstruire leur vie brisée du jour au lendemain. Il y a aussi la persécution des journalistes, dont 2 femmes journalistes installées à Kaboul nous ont raconté les menaces et les actes d'intimidation qu'elles subissent depuis l'arrivée au pouvoir des talibans. Ayesha, qui a fui la capitale, explique que les talibans se sont rendus dans sa famille et ont menacé ses proches. Et Adila décrit la peur et l'incertitude qui régnaient durant les 2 premières semaines du régime taliban. Elle avait décidé de rester en Afghanistan pour poursuivre son travail jusqu'à ce que les talibans arrivent chez elle une nuit et demandent à la voir. À force d'insistance, ses proches l'ont convaincue de quitter le pays. Donc les journalistes ont reçu des instructions des talibans. Désormais, ils doivent travailler conformément à la charia dans le respect des règles islamiques. Les femmes et les manifestations, donc par crainte de représailles violentes, de nombreuses Afghanes portent aujourd'hui la burqa et s'abstiennent de sortir de chez elles sans un tuteur masculin. Malgré la myriade de menaces qui pèsent sur les droits des femmes à travers le pays, certaines, continuent de manifester. La plupart des manifestations ont été violemment réprimées par les talibans. Le 4 septembre 2021 à Kaboul, une centaine de femmes ont été dispersées par les forces spéciales talibanes qui ont tiré en l'air et auraient utilisé des gaz lacrymogènes. Le 8 septembre, le ministère de l'Intérieur, désormais contrôlé par les talibans, a publié un décret interdisant toutes les manifestations et tous les rassemblements en Afghanistan jusqu'à ce qu'une politique en matière de manifestation soit codifiée. Nous demandons au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies d'instituer un mécanisme d'enquête robuste et indépendant pour documenter les crimes relevant du droit international et mettre fin à l'impunité. Les civils afghans menacés doivent pouvoir sortir du pays et bénéficier d'une protection. La communauté internationale doit garantir des voies légales et sûres pour les réfugiés. Et l'ouverture de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le 20 septembre, doit être l'occasion de mesures concrètes pour protéger l'identité des personnes citées. Tous les noms ont été modifiés, bien sûr. Donc,
C'est pas très inclusif, tout ça.
Comment ? C'est pas très inclusif. Non, mais on s'en... Enfin, sans être devin, on se doutait un petit peu que les talibans au pouvoir allaient vite refaire ce qu'ils ont fait il y a 20 ans.
Évidemment.
Et ne certainement pas laisser ce qui s'était mis en place, notamment les libertés qu'avaient acquises les femmes par rapport au travail, à l'éducation, à l'expression. Et puis, ils ont un système aussi de justice qui est quand même... très sommaire, parce que là, dernièrement, c'est pas dans le communiqué d'Amnesty, mais hier, j'ai vu, il y avait des agences qui ont publié, ils ont attrapé des gens qui avaient commis des rapts, des enlèvements crapuleux pour avoir en contre de l'argent. Ils les ont attrapés. En fait, ces gens-là ne sont pas jugés, ils ne sont pas mis en prison, ils ont été tués, rués de coups, tués et pendus à des grues en plein Kaboul. Ah oui. Donc on revient à ce qui a déjà été vu, enfin ce qui a été vu aussi en Syrie quand il y a eu Daesh, mais ça a déjà été vu ça, la justice des talibans, et c'est un petit entraînement, enchaînement tout à l'heure pour, quand on va parler de la peine de mort, mais c'est vraiment des exécutions sommaires, quoi.
Oui, oui. Voilà. Et en fait, c'est pas la justice, hein, c'est des exactions expéditives.
Oui, c'est ça, bien sûr.
Et ça n'a rien à voir avec la justice, effectivement, parce que ça ne respecte absolument pas les normes. Enfin, Julianne est mieux placée pour nous pour en parler, mais ça ne respecte absolument aucune norme de justice reconnue nationalement ou internationalement.
Oui, du début à la fin.
Voilà. Nous, on a entendu, on était ce week-end, vous parlez de notre vie personnelle, on était Julianne et moi ce week-end à Paris pour une grande réunion nationale d'Amnesty.
Un grand rassemblement. 4e édition.
C'est ça, un campus. Bon, bref, avec beaucoup de conférences, d'ateliers, c'était très intéressant. Mais c'est pourquoi je vous en parle, c'est parce que samedi soir, on a eu le témoignage de 4 femmes afghanes, des comédiennes, qui ont réussi à fuir, elles, l'Afghanistan, juste avant l'arrivée au pouvoir des talibans, si je ne me trompe pas, parce qu'elles sont arrivées en France fin juillet de cette année, grâce à l'intervention d'ailleurs d'une association et d'un groupe d'artistes du Nord, si je me souviens bien. Et donc elles ont témoigné, c'était extrêmement émouvant effectivement de les entendre, et moi je me souviens d'une des 4, c'était même la conclusion, je crois, qui a dit « Bien sûr, on est très contente d'être ici, parce que si on était là-bas, ben, on serait effectivement extrêmement menacés, c'est le moins qu'on puisse dire, mais de toute façon, tant que les talibans seront au pouvoir et tant que toute ou partie de nos familles et des gens qu'on connaît seront toujours sous leur domination là-bas, on ne pourra jamais être heureuse. » Donc voilà, c'était quelque chose qui était tout à fait remarquable en soi. Je sais pas, Juliane, si tu veux dire un petit mot par rapport à ça.
Ouais, ça c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve souvent quand on écoute les témoignages. Je me souviens aussi de témoignages de personnes ouïghours qui avaient pu fuir le pays, et c'était toujours ça. C'était moi, certes, je suis heureuse d'être en France, d'être en sécurité relativement, mais tant que ma famille et mes amis et tout simplement les personnes de mon pays ne sont pas en sécurité. Il y a une culpabilité un peu de se dire...
Il y a toujours un déchirement.
C'est toujours ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve souvent et qui se comprend tout à fait, évidemment.
C'est ça. Et je rappelle, ça me fait penser à ça, je rappelle ce que j'avais dit à la première émission, celle d'il y a 15 jours. Vous avez toujours une action à faire sur le site d'Amnesty, hein, sur ce dossier-là, le dossier Afghanistan. Vous avez toujours une action à faire destinée au ministre de l'Intérieur, comment il s'appelle déjà ?
Darmanin,
voilà.
T'as oublié ?
Oui, enfin non, j'étais entre Castaner et Darmanin, mon cœur balance.
Ne balance pas.
Non, je vous rassure, non. Donc, à la destination de M. Darmanin pour lui demander à ce que les restrictions pour l'accueil des migrants d'origine afghane en France, toutes les restrictions soient levées et qu'on accueille effectivement le plus grand nombre possible de gens qui arrivent encore à fuir de façon compliquée et via l'Iran ou je ne sais pas quel pays qui arrive encore à fuir le régime des talibans. De toute façon, effectivement, ce régime ne respectera jamais le moindre principe de base de respect des droits humains. Il ne faut pas se leurrer. Donc, de toute façon, ce sera forcément, tant qu'ils seront au pouvoir, ce sera un calvaire absolument inhumain pour la population afghane. Et que les normes régissant le droit des réfugiés s'appliquent de plein gré aux gens qui fuient ce régime. C'est clair.
Et qu'il ne faut pas essayer de lutter contre les flux migratoires excessifs. Comme dirait Monsieur Macron, parce que je l'ai déjà dit la semaine dernière, oui. Mais je le pense toujours. C'était infâme de dire ça. Voilà.
Tout à fait. Les fameux flux migratoires.
Donc, n'hésitez pas à faire cette action, à envoyer ces mails ou ces messages par téléphone portable à Monsieur Darmanin. Voilà, c'est sur le site d'Amnesty, vous tapez Afghanistan, vous trouvez l'action très facilement. Toujours sans transition, comme on dit, mais quoique, parce que les régimes des talibans, c'est un régime extrêmement violent, donc qui dispose d'armes. Entre parenthèses, on se demande d'ailleurs, qui est-ce qui fournit les armes aux talibans, hein, qui est-ce qui les finance, ces gens-là, quand même. Donc, on va vous parler d'une autre action qui est faite par Amnesty France contre l'État français. Donc, c'est sur l'opacité sur les ventes d'armes. Voici le communiqué. Le 23 septembre 2021, conjointement avec le Centre européen pour les droits constitutionnels et humains et le média d'investigation Disclose, nous, alors c'est Amnesty International France, avons saisi le tribunal administratif de Paris. L'objectif, contraindre l'administration des douanes à communiquer les documents sur l'exportation de matériel de guerre, de maintenance et de formation de la France. Plus particulièrement, nous cherchons à faire la lumière sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. C'est la première fois en France que la juridiction administrative est saisie pour contester le refus de communication de documents douaniers relatifs à des ventes d'armes en lien avec le conflit au Yémen. Compte tenu du risque considérable que les armes françaises soient utilisées pour commettre de graves violations du droit international humanitaire contre la population civile au Yémen, le refus de communiquer ces informations douanières constitue une atteinte disproportionnée au droit fondamental du public de recevoir les informations nécessaires à l'exercice d'un débat public légitime et démocratique. Nos organisations font suite au silence écrasant opposé par l'administration des douanes à la commission d'accès aux documents administratifs, à leur sollicitation d'informations détenues par les douanes sur les quantités, dates et destinations finales de certains matériels de guerre « made in France », dont il est établi qu'ils sont utilisés dans le conflit au Yémen. Parmi ces matériels, on trouve des avions Mirage 2000, des missiles Storm Shadow, des pods Damoclès et Talios, et des canons César. Malgré les preuves accablantes et attaques commises par la coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis au Yémen depuis 2015 contre les populations et infrastructures civiles, la France continue de livrer des matériels de guerre et à fournir maintenant ses formations à ces pays. Le traité sur le commerce des armes, de même que le droit européen et français, interdisent strictement ces exportations dès lors qu'il existe un risque qu'elles facilitent la commission de crimes de guerre. Pourtant, la France a livré pour plus de 8 milliards d'euros de matériel de guerre sur la période 2015-2020 à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes. Ce manque de transparence est un obstacle majeur au contrôle à la fois parlementaire, judiciaire et démocratique sur les exportations d'armes françaises. Sans accès à une information suffisamment précise et fiable, aucun contrôle n'est possible sur le respect par la France de ses engagements internationaux en matière de droits humains. Ainsi, c'est grâce au travail d'investigation de Disclose en 2019 que l'opinion publique et la représentation nationale ont découvert l'utilisation de plusieurs armes françaises dans le conflit au Yémen. Ces révélations ont mis en lumière les mensonges d'État du gouvernement sur l'utilisation d'armes françaises dans ce conflit. C'est dans ce contexte que nous avons lancé la campagne « Silence en armes », soutenue par des dizaines de milliers de citoyens, demandant au ministère des Armées beaucoup plus de transparence sur ses exportations de matériel militaire. Une étude réalisée par Harris Interactive en 2021 révèle que 3 Français sur 4 souhaitent plus de transparence et de contrôle sur les ventes d'armes françaises. Alors que la France doit prendre la présidence de l'Union européenne le 1er janvier 2022, le respect de ses engagements internationaux, notamment en matière de droits humains et de respect de la liberté d'accès à l'information du public, engage sa crédibilité tant à l'international qu'auprès des citoyens français. Selon la Convention européenne des droits de l'homme, toute atteinte à ce droit doit être strictement proportionnée, justifiée et légitime. Le secret, quel qu'il soit, ne peut plus servir d'excuse inconditionnelle à l'État pour s'opposer à la communication d'informations indispensables à un débat public libre et informé sur les ventes d'armes de la France. Voici donc le communiqué qui vient d'être publié par Amnesty hier. Et donc, on vous rappelle que Amnesty fait partie d'un groupe d'ONG qui viennent de déposer plainte contre l'État français par rapport au secret entourant ces ventes d'armes. Et il y avait là aussi au campus de ce week-end une conférence sur le sujet, ventes d'armes au Yémen, qui était, on y a assisté, qui était extrêmement bien documentée et extrêmement, extrêmement pointue. Et oui, alors il a été dit à plusieurs reprises, donc on est bien placé pour vous le répéter, oui, l'État français et la ministre des armées, qui s'appelle je ne sais plus comment là par contre, la ministre des armées, ont menti sciemment devant l'Assemblée nationale, c'est-à-dire devant la représentation nationale, et que pour Amnesty et autres ONG, ce type de mensonge devrait être effectivement aussi poursuivi en justice. Voilà. Donc, on va... Oui, il est grand temps de passer à la première pause musicale. On se retrouvera après, et donc ce sera la petite chronique de notre amie Juliane.
Soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool. Until you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, and then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. Keep your dope with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. Working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Mm-hmm.
humans learn how to smile and to kill. If you wanna be like all the folks on the hill, a working class hero is something to be. 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 Working class hero is something to be.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc, Carlise, on a, j'ai rouvert les micros. Donc,
je signale. Tu es en train de papoter avec Julien.
C'est ça, c'est ce que j'ai remarqué. De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International pour la suite de son émission. On vient d'entendre un morceau de, composé à la, au départ par John Lennon qui s'appelle Working Class Hero, qui fait référence au fait au thème d'un spectacle sur lequel on sera présent, mais restez à l'écoute de l'émission, on en parlera tout à fait à la fin. Voilà. Et c'était une reprise d'un disque en soutien à Amnesty. Le groupe qui a repris ce morceau s'appelle Green Day. Voilà. Donc, Juliane, je crois que tu avais pas mal de choses à nous dire.
Oui, alors ça va être un peu de la sociologie et je n'ai pas repris les sources amnestiennes en tant que telles. Mais bon, c'est quand même des sujets qui tournent autour des droits humains, et en l'occurrence des droits des femmes. Donc, les liens entre le féminisme, les luttes contre les dérèglements climatiques et plus largement l'emprise des hommes sur la nature avec le lot de destruction qu'elle entraîne. Donc je vais vous citer les mots de plusieurs autrices sur le sujet, que vous retrouverez, je vous donne quand même la source, dans la revue Cahiers du genre, et plus précisément dans Genre, inégalité environnementale, nouvelle menace, nouvelle analyse, nouveau féminisme. Alors je vous cite ce qu'elles disent. Les interdépendances entre humains et environnement se jouent à toutes les échelles, donc du global au local. Donc ça suscite une spatialisation des inégalités, qui est une donnée première sur la réflexion du genre. Donc on évoque régulièrement aujourd'hui, à propos du changement climatique, un « nous », c'est-à-dire notre planète, notre avenir futur. Sauf que le « nous » qui transforme ou dégrade l'environnement n'est pas le même que le « nous » qui en subit les conséquences. Donc sur le continent africain, les activités agricoles qui sont indispensables à l'alimentation sont assurées par des femmes africaines. C'était Greta Garde et Laurie Gruen qui le rapportaient. Où elles accomplissent 60% du travail agricole et 60 à 80% de la production de nourriture. En même temps, elles assurent l'entretien de la biodiversité, que menace au contraire la généralisation d'une agriculture productiviste qui uniformise les semences, et encore sans parler des semences OGM. Elles ont un rôle relationnel important qui entretient le lien social, le rapport à l'environnement. Mais ce travail, qui le plus souvent n'est pas salarié, et donc les produits entre peu dans les circuits marchands, n'apparaît pas dans les statistiques économiques. C'est un travail qui, parce qu'il relève de la sphère privée, du domestique, est invisible. Et alors que l'exacerbation des inégalités justement entre les femmes et les hommes, le sud et le nord, les inégalités de classe, n'est pas seulement le cadet des soucis des entreprises transnationales et de leurs actionnaires, c'est précisément la clé de leurs bénéfices. Dans les conflits armés internationaux, en Irak par exemple, ou locaux, donc là, au sein d'un continent ou de pays, au Nigeria, Soudan, RDC, donc République démocratique du Congo, affectent tout particulièrement les femmes, surtout rurales, racialisées, au sud. Presque toujours désarmées, souvent elles sont les dernières à rester dans les villages en cette période de forte migration. Elles sont les principales cibles des violences sexuelles et militaires qui visent à obliger la population à abandonner les zones convoitées. Ce sont elles ensuite qui deviennent la majorité des réfugiés qui sont parqués à vie dans des camps ou dans le meilleur des cas des migrantes criminalisées qui cherchent à survivre dans des villes globalement hostiles dans des professions qui sont les plus mal rémunérées, qui sont socialement dépréciées hein, quand il ne s'agit pas de traite. Et donc, pour revenir à l'écoféminisme, et je vous donnerai une définition un peu globale, et je vous parlerai de l'autrice qui a inventé le terme, une Française, bien que ça existait déjà avant, mais le terme n'existait pas en lui-même. Il y a plusieurs parallèles qu'on peut faire entre domination des hommes sur la nature, aussi sur le règne animal, et également domination des hommes sur les femmes. Donc là, on peut parler de double prédation, hein, c'était Sandrine Rousseau qui en parlait récemment. Hein. Donc les hommes sont amplement responsables des catastrophes écologiques. Bon, on ne va pas tomber dans l'essentialisme de dire d'opposer des hommes virils, machistes, violents, et des femmes qui seraient par nature douces, empathiques, compatissantes, prendraient soin des autres, même si hein, une telle opposition, ça peut exister. Mais surtout, elle n'est pas innée, elle n'est pas naturelle. Donc ce que Éric Zemmour, pourtant, voudrait nous faire croire, hein, qu'il le martèle jusqu'à ce que ça nous rentre dans le crâne et qu'on y croit.
Je vois pas du tout de qui tu parles.
Non, moi non plus. donc ça, c'est un phénomène social. C'est acquis, c'est inculqué dès l'enfance, pour pas dire le berceau. Et donc, autre citation, cette fois d'une journaliste qui justement parlait d'écoféminisme. « Contrairement à l'âge, le milieu social, le niveau d'études, le sexe de l'individu qui commet une violence, quelle que soit sa nature, est beaucoup moins étudié. Cette réalité n'est même jamais questionnée. » Donc en général, on va dire, bon voilà, il avait tel âge, il venait de tel milieu social, il était nord-africain, il avait tel niveau d'études, et beaucoup moins, ah bah tiens, c'était un homme, c'était pas une femme, etc. Pour faire un peu d'étymologie, le terme virilité vient du latin vira, qui signifie le héros. Donc ça recouvre, ça recouvre les attributs de force, puissance, courage, etc. Et le rapport de domination des hommes sur les femmes est aussi à rapprocher, et donc là, c'est là qu'on rentre dans l'écoféminisme, de la domination des hommes sur la nature, du fait d'exploiter pour tirer profit des ressources naturelles, par exemple, comme le fait de tirer profit du travail des femmes, gratuit en l'occurrence, donc là, on pense au travail domestique. Donc un travail qui n'est pas rémunéré, qui est déconsidéré, qui permet même aux hommes de s'élever socialement, d'acquérir un haut niveau d'études, hein, au moins un niveau d'études, d'éducation, d'évoluer dans leur vie professionnelle, voire d'entrer en politique, etc. Et de ne pas être pollué hein, par ce qu'on appelle, on en parle hein, pas mal dernièrement, de la charge mentale. Donc là, pour donner un petit chiffre, on a 80% au moins des tâches ménagères qui sont assurées par les femmes. Donc là, on parle d'un phénomène qui est majoritaire, qui est global, qui est systémique. On n'est pas à quelques, on n'est pas en train de parler des exceptions qui permettraient d'invalider le principe. Donc on discutait justement, on débattait de ça, de l'importance des mots, l'importance de nommer, parce qu'évidemment, si on est dans le déni, c'est déjà le premier des problèmes, et ça permet pas aux femmes de s'émanciper d'une tutelle masculine où qu'elles se trouvent sur le globe. Hein. Bon, on pense en particulier aux femmes afghanes en ce moment. Donc là encore, toujours dans cette idée d'écoféminisme et d'exemple un peu entre domination sur la nature et domination sur les femmes, les hommes auraient une empreinte carbone plus élevée. Donc ça, pareil, vous le retrouvez dans l'article, je pourrais vous citer les sources. Donc une empreinte carbone plus élevée que les femmes. Par exemple, ils vont parcourir de longues distances en voiture, consommer plus de viande, hein, selon des critères virilistes ancestraux et donc des stéréotypes. Les militants écologistes sont souvent des militantes écologistes. On pense aux groupes de citoyennes et de citoyens qui se sont formés en réaction à des désastres écologiques, comme des accidents industriels. Au sein du parti animaliste, vous avez 80% de femmes. Et donc, ça pourrait être amusant, ces illustrations, si ce n'était pas le fruit de stéréotypes patriarcaux. Donc, vous avez une enquête d'OpinionWay, qui était réalisé par Camping Gaz en 2015, qui confirmait cette affirmation. Donc, petit exemple, à l'occasion d'un barbecue, hein, parce que là, on est encore presque dans l'été, les femmes s'occupent à 75% de faire les courses, 72% d'élaborer le menu et 48% de la préparation. Bonjour la charge mentale. Et elles ne sont au final que 8% à s'occuper des aliments sur le grill. Donc, vous avez l'image de l'homme viril qui chasse et qui fait cuire sa viande sur le barbecue. Donc, qui fait encore partie de l'imaginaire collectif. Bon, je ne dirais pas que les chasseurs sont majoritaires et qu'on a 2,5% de femmes selon les estimations de la Fédération nationale des chasseurs. Donc, toujours pareil, l'importance de nommer les choses, de nommer les responsables des violations des droits environnementaux, des droits des femmes. Donc là, ça me fait penser, petit aparté, à pendant un débat dans un labo d'idées, justement, pendant le campus avec Amnesty, le week-end dernier. Donc c'était un labo d'idées sur les questions qui touchaient au racisme. Et il y avait l'un des militants d'Amnesty qui comprenait pas trop qu'on utilise des termes, ces nouveaux termes, bon, pas tous nouveaux, racisme, antiracisme, personnes racisées ou racialisées, inclusion, intersectionnalité, bref, ça lui passait un peu au-dessus. Et donc, il ne comprenait pas, en fait, qu'on nomme les choses, ou est-ce qu'il fallait passer par des euphémismes, donc adoucir la réalité, en fait. Donc, là, on va prendre un exemple pile d'invisibilisation de la réalité. Quand on parle régulièrement, notamment le 25 novembre, des violences qui sont faites aux femmes. Bah, c'est quoi ces violences qui sont faites aux femmes? On a l'impression que c'est un peu une réalité comme ça, qui plane au-dessus des femmes, mais on ne sait pas trop. Et on parle beaucoup moins des violences faites aux femmes par les hommes, même, alors que c'est... Donc, on ne nomme pas, mais c'est quand même la majorité des cas. L'écrasante majorité. Donc, on retire les mots qui permettent de nommer des oppressions qui sont spécifiques. Donc, c'est le cas de ces violences. Est-ce que... Ouais, bon après je vais faire le parallèle avec les animaux, histoire de vous achever.
Je sais pas dans quel sens on doit prendre ce terme achever.
Non, je regarde pas trop vos réactions en fait.
juste une petite parenthèse, Juliane, c'est que la pendule tourne, donc il va falloir que si tu peux résumer un peu la fin de ton intervention, on va être contraint par la pendule.
Voilà. Oui, alors. Je ne vais pas vous parler de l'historique de la pensée écoféministe, comme ça ira plus vite.
Désolé de t'interrompre, hein, mais malheureusement, on n'a qu'une heure. On n'a qu'une heure d'émission, je sais que c'est généralement pas assez, donc voilà.
Oui, alors je vais vous parler rapidement de l'industrialisation, enfin l'élevage intensif et le rapport un peu qu'on trouve entre exploitation des animaux et exploitation des femmes. Donc vous avez une chercheuse française en philosophie et militante écoféministe qui s'appelle Myriam Bahafou. Et donc, je vous cite sa phrase, c'est « L'industrialisation de la mort de milliards d'animaux par an comme une oppression systémique et patriarcale ». C'est comme ça qu'elle la nomme. Et également, elle dit que « Loin de se cantonner à la sphère privée, la nourriture englobe des processus de production qui impliquent des gens, des territoires, des sols et des animaux ». Alors là, comment on peut faire le rapprochement avec la condition féminine?
Oui, comment?
Comment?
Explique-nous.
Je vais te donner un exemple. Donc on retrouve le même parallèle qui était fait dans les maisons closes, en l'occurrence à la fin du 19e en France, et la consommation de viande, attention, accrochez-vous. Donc les femmes étaient animalisées, hein, je ne vais pas vous lire comment ils les présentaient parce que c'est un peu trash. Donc elles étaient assimilées à du bétail, elles n'étaient même pas considérées comme des êtres humains, uniquement comme de la chair à consommer, hein, au même titre que les animaux. Donc on retrouve un peu ce même mépris et cette hiérarchie avec au sommet, vous aurez donc les hommes, ensuite viennent les femmes, puis les animaux. C'est pareil avec les représentations dans la publicité qui permettent et qui renforcent cette image qui associe corps des femmes, viande, sexualisation de corps des femmes, voire on représente des animaux qui vont être des corps féminins, donc qu'on va mettre en avant la nudité pour vendre des morceaux de viande par exemple. Donc petit exemple en 2015, France 3 qui avait médiatisé un tel procédé, alors je vous cite un peu la communication, c'était... aux alentours de Sarcelles, donc dans le Val d'Oise, des panneaux publicitaires hein, qui étaient quand même de 4 mètres sur 3, qui représentaient le corps dénudé d'une femme qui faisait la promotion d'une boucherie, hein, oui, vous avez bien entendu. Et cette publicité vendait depuis une semaine à peu près avant que ça soit signalé. Jeu de mots à l'appui, les mérites de la consommation de viande, hein, alors qu'on va plutôt dans le sens inverse hein, ces derniers temps. Et donc vous trouverez un des exemples... similaire, plus récent encore malheureusement, et les grandes marques hein, s'illustrent aussi par ce genre de publicité, hein, c'était le cas de Charal. Bon, pour conclure, les femmes endossent le rôle de génitrices de corps disponibles au service des hommes, assignés à des tâches domestiques, par conséquent, elles sont moins encouragées à s'investir dans leur propre réussite, dans leur santé. Elles sont plus dépendantes économiquement des hommes, plus précaires. Et on va passer sur l'écart moyen de salaire de rémunération de 25% à poste et à compétences égales entre les femmes et les hommes. Donc cette précarité, elle fonde bon nombre de discriminations, d'humiliations, de violences physiques, psychologiques. On a un grand nombre de femmes qui sont quand même suivies psychologiquement ou qui sont suivies mais mal diagnostiquées. Donc là, je vous renvoie à l'interview de Tiffaine qu'on avait fait dans le cadre du dernier Fréquence Droits Humains sur les droits des femmes du mois d'avril dernier. Bon, bref, tout cela en raison de traumas, qu'elles prennent des traitements médicaux pour ces pathologies qui entraînent une perte de productivité des femmes, incontestablement. Et là, je vous renvoie vers un ouvrage qui vient de paraître, qui s'appelle « Le coût de la virilité ». Et c'est une historienne, Lucille Pétavin, qui et donc ça vient d'être paru le mois de mars. Merci. À vos questions.
moi, ça m'a inspiré rapidement, parce que, comme je disais tout à l'heure, effectivement, leur tour.
Ah, je vous ai dit que c'était au moins 15 minutes.
Hein. Oui, non, mais leur tourne, je parle pour tout le monde, tourne toujours trop vite dans ces émissions. Donc voilà, on se fait toujours avoir par la pendule.
Oui.
Mais juste deux réflexions par rapport à ce que tu viens de dire. La première réflexion, c'est que, bien sûr, l'oppression des femmes, oui, évidemment que l'égalité homme-femme reste encore une notion sur laquelle il faut beaucoup, beaucoup travailler, y compris dans nos pays. Et donc, effectivement, il ne faut absolument pas lâcher les campagnes et les actions et la sensibilisation par rapport à ça, bien évidemment. Pour autant, dans le portrait de général de l'homme que tu as dressé, que je comprends très bien, parce que c'est culturellement, ça recoupe des choses que l'on connaît tous. Moi, personnellement, je ne me retrouve absolument pas. Quoi. Je veux dire, voilà.
Ah oui, mais
donc, voilà. Donc, et bon, ça m'amène juste à la réflexion sur laquelle je voulais venir, c'est que nous, Amnesty International, effectivement, on parle de droits et d'égalité des droits, que l'on soit humain, donc que l'on soit homme ou femme, peu importe, bien évidemment, et que donc le fait d'opposer l'homme ou la femme en tant que genre au niveau des droits ne recouvre aucune réalité. Même si c'est une situation de fait à l'heure actuelle qu'il y a inégalité, c'est effectivement quand on lutte pour les droits humains, c'est pour la remettre en cause et pour essayer d'en voir le bout de ces inégalités. Et donc voilà. Mais sinon, le fait de naître homme ou femme, bien évidemment que c'est par le plus grand hasard de la nature.
Ah donc, oui, on choisit pas de subir des oppressions qui sont spécifiques.
C'est ça,
les appels au viol, c'est quand même plus les femmes qui les subissent que les hommes. Ça veut pas dire que... En fait, l'idée c'est que c'est un système, et c'est pour ça que ça marche, et qui est aussi entretenu par les femmes, mais du coup qui jouent contre leur camp. Et c'est pas de prendre des individus et de dire voilà telle personne ou c'est un peu des discours que j'entends souvent des personnes qui vont me dire oui mais moi je suis pas comme ça, oui mais moi mon frère il est pas comme ça, oui d'accord, mais du coup personne n'est comme ça, mais il y a toujours autant de violence, de féminicide. Je comprends ce que tu veux dire,
mais c'est pas ce que je dis.
Ça ne réglera pas le problème.
Oui, culturellement, les garçons, effectivement, ont tendance à être élevés de façon, machiste, comme tu disais, enfin pour employer un terme un peu bateau, mais de façon machiste et de façon dominatrice par rapport aux femmes. Oui, culturellement, c'est vrai que c'est assez répandu. C'est même très répandu. C'est là-dessus qu'il faut lutter, effectivement. Mais ce que je voulais dire, c'est pas parce qu'on est garçon que on est destiné à être comme ça. Et c'est pas parce qu'on est femme non plus. Enfin, c'est un exemple qui m'a traversé l'esprit en t'écoutant. Il y a effectivement pas beaucoup de femmes au niveau des femmes qui ont eu le pouvoir ou qui ont le pouvoir qui se comportent de façon extrêmement machiste et dominatrice, mais il y en a quand même.
Faudrait qu'elles y accèdent déjà.
pour te citer un exemple qui est pas si vieux, Margaret Thatcher était quand même un premier ministre anglais qui a été quand même une caricature de personnage absolument abominable sur un plan politique et abominable sur un plan du respect des droits des autres.
Non, donc, mais on n'est pas dans l'essentialisme, en fait, c'est pas le but. Et encore une fois, c'est pas parce que on a des exceptions à un principe de domination qui est faite par les hommes. Désolée, ça sort un peu du cadre amnestien.
Non, c'est
la militante féministe qui parle.
Non, non, mais je comprends tout à fait.
Mais encore une fois, je veux dire, c'est vraiment un système et un principe, et les exceptions n'invalident pas le principe. Le fait de ne pas le voir, ça ne permet pas d'attaquer le problème et de permettre plus d'égalité entre les sexes. Quoi.
Mais je comprends bien. D'où l'intérêt, effectivement, de lutter au niveau de l'égalité des droits et de l'égalité de situation, l'égalité des salaires, enfin, effectivement, etc., etc. Toutes revendications qui sont des revendications amnestiennes. Donc on parle bien effectivement de la même chose. Ça, je suis tout à fait d'accord, effectivement. On doit s'arrêter, on reprendra les débats. On doit s'arrêter à cause de la pendule, encore une fois. Mais on reprendra ce débat, parce que je pense qu'il y a encore énormément de choses à dire. Et sans doute, Claire-Lise avait peut-être des commentaires à faire, tout à fait.
Mais donc, après, ça allait tout manger le temps que je voulais le sujet d'après. Donc, j'ai pas à dire rien.
Donc, quelques secondes de musique, et on se retrouve juste après.
Dis-moi Germaine, sais-tu ça? Y a plus de raison qu'on le cache. L'an prochain paraît-il qu'on va penser aux problèmes des vaches. Les miennes se sont réunies dans un sursaut d'indépendance et m'ont fait part de leurs soucis, m'ont exposé leurs doléances. Les vaches ont une âme aussi, c'est le laitier qui me l'a dit. À l'heure de donner leur lait, elles endurent un supplice, la machine à traire leur fait aux mamelles des cicatrices. Outre que c'est humiliant, par son côté trop mécanique, c'est aussi très traumatisant du point de vue de l'esthétique. Les vaches ont une âme aussi, c'est le laitier qui me l'a dit. Une autre revendication m'a semblé de juste nature. Elle porte sur la façon de traiter leur progéniture. Elles ont en effet compris, par intuition toute bobine, qu'on leur fait faire des petits pour une sinistre cuisine. Les vaches ont une âme aussi, c'est le laitier qui me l'a dit. Le problème le plus brûlant a trait à leur vie sexuelle. Je mets de taureaux dans leur champ, c'est pas la peine d'être belle. En effet, leur fécondation se fait par un intermédiaire qui n'inspire pas leur passion, j'ai nommé le vétérinaire. Les vaches ont une âme aussi, c'est le laitier qui me l'a dit. Souhaitant que les autorités, dans un esprit très boviniste, leur concèdent sans plus tarder ce qui rendra leur vie moins triste. Elles disent que s'il le fallait, elles quitteraient leur pâturage et feraient la grève du lait et le boycott du vélage. Les vaches ont une âme aussi, c'est le laitier qui me l'a dit. Elles m'ont bien persuadé que leurs plaintes sont naturelles, mais j'apprends qu'on leur a donné toute une année rien que pour elles. On va réunir un congrès sur la condition des vaches. Le président sera le boucher, c'est intéressant qu'on le sache. Les vaches n'ont plus de soucis, au laitier, au boucher, merci.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International pour la reprise de son émission et la dernière partie sur la défense et la promotion des droits humains. Et la chanson qu'on vient d'entendre, qui a été choisie par Juliane, Juliane, tu nous en dis un petit peu plus.
Oui, merci Anne Sylvestre, donc autrice, compositrice, interprète française, et le titre c'était La Vache Engagée.
Voilà, ça faisait peut-être un petit peu référence à ce que tu nous avais dit juste avant.
Exactement.
Voilà. Claire-Lise, je crois que tu voulais nous parler de l'abolition de la peine de mort.
Alors après, il ne me reste plus beaucoup de temps, alors que on va fêter cette année les 40 ans de l'abolition de la peine de mort en France. Et c'est quand même quelque chose d'important. Je pense que ça mériterait qu'on puisse revenir dessus sur une autre émission par rapport à tout ce qui était autour du combat pour l'abolition de la peine de mort. Dans une période où certains aimeraient bien revenir sur ce qui a été décidé et vous aimeriez bien rétablir aussi la peine de mort. Alors, parce que je voulais vous parler un petit peu de l'historique sur ces 40 ans d'abolition de la peine de mort en France, enfin, depuis ce qui s'est passé depuis 1981. Mais je voulais commencer, et je n'aurai pas le temps d'entrer trop dans le détail, sur le discours de Robert Badinter, qui a présenté le projet, et c'est quand même un des discours historiques. Tout à l'heure, je disais à Didier, ça me rappelle aussi le discours de Simone Veil, quand elle a demandé la légalisation de l'avortement devant l'Assemblée nationale. Là, c'était aussi, et il a été d'ailleurs, je vous invite à aller écouter, parce que c'est un podcast sur le site d'Amnesty où on peut écouter directement tout le discours intégral de Robert Badinter. Donc, c'était quand même une période, il y a 40 ans, où quand il y avait des grands procès, les gens pouvaient crier « à mort » dehors, réclamer la mort des prévenus. Et quand Robert Badinter plaidait en faveur de la vie, la foule devant le palais de justice criait « à mort ». Donc difficile de le croire, et pourtant, il y a tout juste 40 ans, la peine de mort était encore une réalité en France. Son abolition, nous la devons donc à Robert Badinter, un homme qui a passé sa vie à se battre pour que la justice française ne soit plus une justice qui tue. Un combat qui était loin d'être gagné. Donc, il y a certaines parties, je ne vais pas vous lire son discours en entier, mais il y a une petite partie de son discours qui moi, me touche beaucoup. Et à un moment donné, il dit « Parce qu'aucun homme n'est totalement responsable, parce qu'aucune justice ne peut être absolument infaillible, la peine de mort est moralement inacceptable. » Donc, pour tous les abolitionnistes, il est impossible de reconnaître à la justice des hommes ce pouvoir de mort, parce qu'ils savent qu'elle est faillible. Le choix qui s'offre à vos consciences est donc clair. Ou notre société refuse une justice qui tue et accepte d'assumer au nom de ses valeurs fondamentales celles qui l'ont faite grande et respectée entre toutes, la vie de ceux qui font horreur, démons ou criminels, ou les deux à la fois, et c'est le choix de l'abolition. Ou cette société croit, en dépit de l'expérience des siècles, faire disparaître le crime avec le criminel, et là, c'est l'élimination. Cette justice d'élimination, cette justice d'angoisse ou de mort, décidée avec sa marge de hasard, nous la refusons. Nous la refusons parce qu'elle est, pour nous, l'anti-justice, parce qu'elle est la passion et la peur triomphante de la raison et de l'humanité. Voilà, c'était une partie du discours de Robert Badinter, et je trouve que c'était quand même assez fort. Et après, il continuait, donc demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, d'exécution furtive à l'aube, sous le dé noir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. À cet instant, plus qu'à aucun autre, j'ai le sentiment d'assumer mon ministère au sens ancien, au sens noble, le plus noble qui soit, c'est-à-dire au sens de service. Demain, vous voterez l'abolition de la peine de mort. Législateur français, de tout mon cœur, je vous en remercie. Voilà, c'était la fin de son discours. Mais je trouvais que c'était... Il n'y a plus beaucoup d'hommes politiques qui parlent comme ça, avec cette profondeur et cette grandeur.
Grand avocat et garde des sceaux.
Alors, j'essaye, parce que sur les 40 ans, sur l'historique, sur les 40 ans, c'est un petit peu difficile. Sachez quand même qu'il y a eu décrets qui ont été signés, et les engagements internationaux sont pris par la France, empêchent tout retour en arrière. C'est-à-dire que, par exemple, en 1986, la France a ratifié le protocole numéro 6 à la Convention européenne des droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Puis, le 2 octobre 2007, le deuxième protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies. Et cet article-là, l'article 66.1, dit « Nul ne peut être condamné à la peine de mort ». Le 10 octobre 2007, la France ratifiait aussi le protocole numéro 13 à la Cour européenne des droits de l'homme. Et par ailleurs, cette même année, elle inscrivait le principe dans sa constitution « Nul ne peut être condamné à mort », donc c'est l'article 66.1. Ainsi, cet assassinat étatique était définitivement banni de l'arsenal juridique français sans possibilité de retour en arrière. Mais il reste encore du chemin à parcourir pour que le monde entier en finisse avec ce châtiment barbare qui touche de manière disproportionnée les pauvres et les minorités et sert dans bien des pays à éliminer des personnes dont le seul crime est d'être en fait des opposants, des homosexuels, des athées ou des consommateurs de drogue. En 2021, 55 pays continuent à condamner à mort, parmi lesquels des exécuteurs notoires tels que l'Arabie Saoudite, la Chine, l'Égypte, les États-Unis, l'Irak ou encore l'Iran. On va bientôt rajouter l'Afghanistan, je pense. Oui. Donc ces 5 pays qui ont exécuté le plus de personnes, il y a encore des crimes qui sont commis, en fait, des crimes d'État qui sont commis tous les ans en France. Donc la France, qui a décidé en 1980 de tourner le dos à cette peine d'un autre âge, doit aller plus loin et doit appuyer le combat en faveur de l'abolition universelle. Donc depuis 40 ans, la pression des acteurs des sociétés civiles locales, conjuguée à des pressions internationales, a permis d'augmenter le nombre d'États abolitionnistes. C'est pourquoi, au-delà d'une célébration, cet anniversaire des 40 ans de l'abolition de la peine de mort en France doit aussi être pour la France une incitation à retrouver le souffle de 1981, à renouer avec l'élan abolitionniste d'il y a 40 ans et à faire à nouveau de la lutte contre la peine de mort l'un des piliers de sa diplomatie. Et ce, jusqu'à l'abolition universelle, car rien ne doit entamer notre conviction que ce châtiment aussi inutile que cruel, inhumain et dégradant est condamné à disparaître. Voilà. Donc, par les temps qui courent et avec certains discours de certains présupposés se présenter...
candidat à l'élection présidentielle, voilà, à l'avenir, c'est ça ?
Je les inviterai à aller relire le discours de M. Badinter et de s'en imprégner plutôt que de continuer leurs inepties. Voilà. Ouais.
Mais bon, ce qu'il faut retenir, ce qui nous motive effectivement par rapport à la peine de mort, c'est cette dernière phrase que tu as citée, à savoir la peine de mort est condamnée à disparaître. Voilà. Info locale, et puis on s'arrêtera là, puisque ce sera l'heure de laisser la place au laboratoire. Notre ami Manu vient d'arriver. Donc voilà, info locale, nous sommes partenaires de jeudi 30. Et vendredi 30 septembre et vendredi 1er octobre, nous sommes partenaires du spectacle Les Vivants et les Morts qui est présenté au théâtre organisé par nos amis du Tangram. Nous sommes partenaires, nous n'aurons pas de stand, mais nous sommes partenaires et notre présence est signalée et sera signalée sur le site internet du Tangram et également sur les programmes. Et donc c'est un spectacle qui traite de l'atteinte au droit du travail et à vivre dignement de son travail. Voilà, donc ce sont les droits économiques et sociaux. Le spectacle s'appelle donc Les Vivants et les Morts. Il a été écrit par une personne qui est assez connue, Gérard Mordilla. Voilà, donc c'est jeudi et vendredi, donc au théâtre. N'hésitez pas à aller au spectacle, jeudi 30 et vendredi 1er. Et aussi retenez, alors notre prochaine émission sur l'antenne de Principe Actif, ce sera le mardi 12 octobre, 19h, en direct. Et n'oubliez pas de retenir, on vous en parlera plus la prochaine fois au niveau du détail, mais de retenir votre journée du samedi 23 octobre. C'est à Rouen, c'est pas à Évreux, c'est à Rouen, mais c'est pas loin. Et c'est une journée organisée par l'ensemble de la région Amnesty pour fêter les 60 ans d'existence d'Amnesty International. Voilà, samedi 23 octobre, on vous en donnera le programme dans notre prochaine émission.
On ne vous cache pas qu'il est très intéressant.
Voilà, et donc on laisse l'antenne, il est largement l'heure, on laisse l'antenne et on vous dit rendez-vous le 12. Bonsoir à tous.
Au revoir.
Au revoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.